et bienvenue dans cette émission. Dans une conférence de presse tenue hier mercredi, l'inspecteur général des finances, IGF, a révélé notamment que sur un budget de 285 millions de dollars décaissés par les trésors publics pour la réalisation du parc agro-industriel de Bukangalonzo, seuls 80 millions ont été utilisés. La planification a été un raté et les marchés passés de gré à gré. L'inspection générale des finances a aussi ajouté que 205 millions de dollars américains ont été engloutis et que 6 personnes sont identifiées comme responsables de cette catastrophe, dont 2 sont couvertes par des immunités parlementaires. Les parcs agro-industriels de Bukangalonzo avaient pour objectif promouvoir la production agricole en RDC sur un espace de plus de 70 000 hectares dans les secteurs du même nom dans la province du Kwango. Que vous inspire ces révélations de l'inspection générale des finances? Et qu'est-ce que l'État congolais devrait faire pour récupérer l'argent détourné? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre ce soir. Et nous recevons dans cette émission ingénieur Kabea Kanchama. Il est ingénieur et consultant en management des projets. Bonsoir, ingénieur Kabea Kanchama.
Bonsoir.
Israël Moutala, journaliste. Vous êtes analyste politique et économique. Bonsoir, Israël Moutala. Israël Moutala. Apparemment, il n'est pas encore là, il va nous rejoindre. Fabrice Ngabo, chercheur et consultant en fiscalité et finances. Bonsoir, Fabrice Ngabo.
Bonsoir. Allô.
Israël Moutala, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là. Allô.
Bonsoir, Israël Moutala.
Bonsoir, Guy Maté. Bonsoir, chers auditeurs.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Comme nous le disions dans les sommaires de cette émission, le projet agricole du Bukangalonzo a été un échec planifié dans sa conception. C'est ce que révèle l'inspecteur général des finances. Selon Jules Alinghetti, ce projet a englouti plus de 200 millions de dollars du trésor public. Au cours d'un point de presse hier mercredi à Kinshasa, l'IGF est revenu sur les causes de l'échec du projet de Bukangalonzo. Un autre point a été fait au cours du même rendez-vous avec la presse sur d'autres dossiers, dont celui de la gestion des fonds générés par les GOPAS. Les points avec vous, Jacques-Yves Moulima.
S'agissant du projet de Bukangalonzo, sur un budget global de 285 millions de dollars décaissés par le Trésor public, l'IGF révèle que seuls 80 millions ont été réellement utilisés au bénéfice de ce projet. L'État a donc perdu 205 millions de dollars. Qu'est-ce qui explique la perte d'une si grosse somme d'argent? Jules Alinghetti énumère quelques éléments.
Une sous-facturation en moyenne de 1 à 10 pour l'acquisition des équipements et des intrants agricoles. 80% des paiements surfacturés ont été logés dans un compte se trouvant en Afrique du Sud où les complices se retrouvaient régulièrement pour se partager les butins.
Quant aux auteurs de ces gouffres, l'inspecteur général des finances renseigne que 6 personnes sont identifiées, dont 2 sont couvertes par des immunités parlementaires, un expatrié et 2 autres Congolais dont l'un serait en fuite en dehors du pays. Parlant du dossier GOPAS, l'IGF révèle que de 2015 à 2019, la RVA a collecté 124 millions de dollars américains, mais seuls 118 millions sont retracés. 6 millions se seraient volatilisés dans la nature. Et concernant l'argent utilisé, 90% ont été utilisés dans le services aéroportuaires, mais 10% ont été affectés à des dépenses non concernées.
Merci à vous, Jacques-Yves Moulima. Vous allez comprendre que dans l'émission de ce soir, nous allons plutôt nous focaliser sur la question des Bukangalonzo. Le dossier GOPAS, nous pourrons y revenir la semaine prochaine. Et ingénieur Kabea Kachama, vous êtes ingénieur et consultant en management projet. Que vous inspire ces révélations de l'inspection générale des finances?
Bonsoir Guy Maté, bonsoir Isaïe Moutala et tous les auditeurs de Radio Okapi. D'emblée, ce qu'il faut retenir est que le cas de Bukangalonzo n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Normalement, on devrait déjà faire un audit après la prestation de serment du président de la République, pour pouvoir déterminer les nouvelles orientations avec le nouveau pouvoir. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc, la situation de Bukangalonzo relève de ce qu'on appelle en gestion projet l'absence d'analyse de l'existant. Parce que quand il y a un nouveau projet ou un ancien projet, ou il y a une étude de marché ou l'analyse de la situation existante, tant sur le plan technique que le plan financier, qui va permettre aux managers, donc à ceux qui pilotent ce projet, de pouvoir établir un plan de développement qui tient compte des réalités du terrain, un plan de développement chiffré, c'est ce qu'on appelle dans la partie prévisionnelle financière. Donc, lorsqu'on établit tous ces éléments-là, on arrive progressivement dans les revues projets à corriger les erreurs. Mais malheureusement, le cas de Bukangalonzo, c'est un cas qui peut être étalé sur l'ensemble du projet. Beaucoup de projets ont été lancés avec beaucoup de légèreté et beaucoup de failles sur le plan de la conception que de la gestion.
Voilà, vous dites que c'est un cas qui reflète l'absence d'analyse de l'existant. Il me semble qu'il y a certaines zones d'ombre dans ces projets. On a l'impression que beaucoup de choses n'avaient pas été dites à ces sujets. S'agissait-il d'un simple projet ou un service dépendant des ministères sectoriels, à l'occurrence celui de l'agriculture, ou il s'agissait plutôt d'une entreprise commerciale qui avait une gestion autonome, comme on l'a dit son statut, parce qu'il y avait même un conseil d'administration. Quel était le caractère de ces projets, ingénieur Kabea Kachama?
Écoutez, je n'ai pas le dossier complet de Bangalonzo. J'ai suivi un peu le meilleur de lancement de ce projet, dont il y a eu beaucoup de critiques là-dessus, parce que d'abord, sur le plan de l'agriculture paysanne, on détruisait pratiquement l'économie de nos paysans. Et il n'y avait pas une intégration dans l'étude, l'intégration de toute cette coopérative de paysans agricoles qui pouvaient voir dans quelle mesure ils pouvaient bénéficier de ce projet. Je ne veux pas être si méchant, mais je pense que ce qui s'est passé dans ce projet, c'était un hold-up financier qui a poussé le pays à être dans le boucle. Les gens voulaient juste s'enrichir et non pas contribuer au développement du pays.
Alors, comment vous expliquez qu'un projet aussi gigantesque que celui de Bukangalonzo, qui a été inauguré en grande pompe avec beaucoup de bruit, que ce projet puisse se faire, se concevoir sans planification?
C'est la bonne question qu'il faut poser à nos anciens gouvernants. Parce que normalement, ce projet devait être initié par le ministère de l'Agriculture dans le cadre du programme de développement agricole, donc un plan de développement agricole. Est-ce que cela a été fait? Personnellement, n'étant pas sur le terrain, n'ayant pas suffisamment des éléments, on spécule, donc je ne pourrais pas. Je donne mon avis en tant que consultant en management de projet. Je n'ai pas suffisamment des éléments techniques et financiers pour me permettre de donner un avis objectif. Donc, on spécule. Mais j'estime que, dès le départ, si les gouvernements de l'époque voulaient contribuer au développement du secteur agricole, le ministère de l'Agriculture devrait avoir mis, programmé, donc faire une programmation à court, moyen et long terme pour pouvoir développer ce secteur qui est un secteur clé de développement afin de pouvoir équilibrer notre balance de paiement, parce que quand on regarde, on est obligé d'importer même le riz, importer n'importe quoi, alors que nous avons une terre fertile, il y a possibilité de produire tout ce que nous consommons sur place, et cela peut diminuer notre balance de paiement avec des importations de denrées alimentaires. Donc il y a un problème au niveau de la gouvernance, il y a un problème au niveau de la programmation du projet. Donc, je ne sais pas si le ministère de l'Agriculture a été associé au lancement de ce projet ou c'est un projet qui a été initié entre la primature et les acteurs extérieurs qui ont pratiquement détourné l'argent des contribuables congolais, disons-le.
Oui, ingénieur Kabeya, selon certaines sources, le ministère de l'Agriculture de l'époque n'avait pas été associé à ces projets parce que les personnes qui avaient conçu le projet avaient estimé qu'il ne s'agissait pas d'un service qui devrait dépendre d'un ministère sectoriel, mais plutôt d'une entreprise autonome qui ne devait pas dépendre d'un ministère donné. Alors, l'IGF parle de 285 millions de dollars décaissés par les trésors publics, dont seulement 80 millions ont été utilisés. Mais officiellement, le gouvernement avait communiqué un montant global de 80 millions de dollars. C'est vrai que vous n'avez pas toutes les données techniques comme vous venez de le dire, mais comment vous comprenez cette disparité des chiffres entre l'IGF et le gouvernement congolais?
D'abord, si le ministère de l'Agriculture n'était pas associé et que, tel que l'IGF, d'après la conférence de presse que j'ai suivie hier de l'IGF, et que ce projet, au lieu que ce soit un projet financé sur le fonds privé, et de fait que financé sur le fonds de la République, sur le fonds du trésor public, c'est un détournement d'isolé. Donc, on ne peut pas consulter le cash. Parce que si c'était le privé, si le prétexte était de ne pas associer un ministère sectoriel parce que c'était un projet privé, à ce moment-là, il fallait que les associés privés qui venaient, après avoir fait une étude de faisabilité, après avoir fait une analyse de besoins dans cet environnement-là, venir mettre sur la table du gouvernement, voilà, nous apportons un investissement de temps. Nous souhaiterions avoir, par exemple, des facilités au niveau fiscal, au niveau d'autres. Ça, c'est autre chose. Mais là, tel que l'UNIGEF a présenté les choses hier, c'est un détournement de fonds publics.
Alors, et par rapport à cette disparité des chiffres?
La disparité des chiffres, c'est l'UNIGEF qui a fait le dit, qui a suffisamment des éléments. Il appartient à l'UNIGEF d'aller au fond pour savoir qu'est-ce qui a été décaissé réellement au trésor public, qu'est-ce qui a été utilisé et comment il y a eu cette répartition-là. Donc là, c'est à l'IGF de donner suffisamment des éléments sur le financement de ce projet-là.
Merci, nous vous gardons dans cette émission. Israël Moustala, vous êtes journaliste, analyste politique économique. Comment vous réagissez à ces révélations faites par l'IGF hier, mercredi?
Bon, je réagis avec beaucoup de distance, beaucoup de circonspection, parce que les éléments que l'IGF a mis à notre disposition ne sont pas suffisamment étayés. Et donc l'IGF nous a habitués ces derniers temps à balancer des chiffres sans la rigueur qu'il convient justement quand on se lance dans un tel exercice. On ne peut pas affirmer que, par exemple, que ce projet était un échec planifié. Non, c'est pas un échec planifié. Donc, la question d'abord de la pertinence du projet Bukangalonzo, il faut qu'on se mette d'accord. Il s'agit d'un parc agro-industriel. Ça veut dire quoi? C'est parti d'un modèle économique qu'on appelle les zones économiques spéciales. Ça veut dire qu'on regroupe des activités industrielles et agro-pastorales sur un espace géographique donné afin de lever certaines contraintes. Donc, c'est sur ce modèle-là que se sont développés certains pays asiatiques comme la Chine et comme la Corée. Ça veut dire que vous avez, à un espace géographique donné, une concentration industrielle qui fait que on puisse accélérer le développement, on puisse accélérer la transformation. Donc, c'est parti de cette idée-là. Et donc, ce parc, dans sa conception, c'était une excellente idée. Parce que, ne l'oubliez pas, nous importons pour à peu près plus de 2 milliards de dollars en termes de denrées alimentaires de base. Bon, il fallait absolument soulager notre balance de paiement, recouvrer notre indépendance et notre souveraineté alimentaire. Donc, c'est des questions essentielles. Donc, Bukangalonzo, quelles que soient les faiblesses de son management, est un projet indispensable, à mon sens, pour une question de souveraineté.
Israël Moutala. Voilà, voilà. Vous dites que c'est le projet Bukangalonzo, c'était une excellente idée, et on se rappelle même que ce projet a été lancé en grande pompe avec beaucoup de fastes en 2014, et tout semblait bien marcher. Mais qu'est-ce qui n'avait pas marché à votre avis? Qu'est-ce qui avait bloqué? Lorsque vous suivez l'ancien premier ministre Matata Ponyo, il avait parlé de la rupture des fonds après son départ de la primature. Est-ce que c'est la seule raison?
Bukangalonzo, c'était un projet dont le financement total devait être de 520 millions de dollars sur une période de 10 ans. Ça veut dire que le projet allait arriver à maturité en 2024. Alors, quand le Premier ministre Matata vous dit qu'il a quitté le gouvernement, je crois, en 2016, et qu'à partir de ce moment-là-bas, les financements atarient. Mais à quoi vous attendiez-vous? Ça veut dire un projet dont la maturité devait arriver en 2024, on coupe le financement 2 ans après son lancement, et vous voulez que ce projet tienne? Non, il ne peut pas tenir. Donc, ça veut dire que quand on a coupé le financement, on avait signé le certificat de mort de ce projet-là. Et donc, je pense que c'est du bon sens.
Est-ce que c'était l'unique raison? Parce que lorsque vous suivez l'IGF et même l'ingénieur Kabea Kachama, qui parle des manques de planification et qui parle même des hold-up financiers, est-ce que le fait d'avoir coupé les fonds qui devaient être destinés à ce projet constituait l'unique raison ou il y avait d'autres raisons qui n'avaient pas été évoquées jusque-là?
Guy Maté, comme je vous l'ai dit, il ne suffit pas d'affirmer des choses, il faut les étayer. Le projet, il y a des études de faisabilité. Voilà, moi j'ai lu certains documents, notamment le chronogramme des activités de Bukangalonzo. Donc chaque année, il y avait des étapes qu'il fallait franchir. Donc comme je le dis, c'était un investissement total de 520 millions de dollars, donc à peu près 1,5 milliard de dollars, sur 10 ans. Mais dites-moi, au bout de 2 ans, vous coupez le financement, à quoi vous attendiez-vous? Ça veut dire que la raison principale, justement, de la mort de Bukangalonzo, c'est le tarifement du financement. C'est aussi simple que ça. Mais cela, je n'excuse pas certaines fautes de gestion qu'il peut y avoir dans le chef du gestionnaire du projet qui était Africom. C'est un projet stratégique. Mais ce qui a manqué, il a manqué une vision partagée entre les membres du gouvernement, entre les différents gouvernements successifs, que ce projet était un projet vital pour la République démocratique du Congo, à mon sens, parce qu'il s'agit de la sécurité alimentaire et de la souveraineté alimentaire, comme je le disais tantôt. Nous sommes dans un pays où nous mourons de faim, où nous ne sommes pas bien nourris, où quand nous voyons nos populations, ils sont mal nourris parce que justement la nourriture coûte très cher, nous l'importons. Et donc quand on décide, quand au niveau de l'État, on lève une option stratégique de construire un parc agro-industriel, je pense qu'il fallait que tous les membres du gouvernement, parce que c'était un projet qui était géré par plusieurs ministères, soient impliqués. Mais alors, parce que j'entends semble dire ici que ce projet a été mal conçu. Non, le projet a été même appuyé par la Banque mondiale. Et vous connaissez la rigueur de la Banque mondiale, qui était prêt à mettre 75 millions de dollars dans le projet, je crois, à sa quatrième ou à sa troisième année. C'était déjà bouclé. Il y avait aussi la BAD qui venait en appui et qui avait dit qu'il allait faire de Bukangalonzo une vitrine pour l'Afrique. Donc, on devait dupliquer ce projet dans le reste de l'Afrique. Donc, ça veut dire qu'ils ont examiné une étude de faisabilité qui était faite, qui était costaud. Et pour revenir à la question, terminer sur cette question de gestion, mais EY, Ernst & Young, qui est l'un des grands cabinets d'audit au monde, a produit justement un audit en 2016 et qui n'a pas trouvé à redire dans la gestion de Bukangalonzo. Là, moi, je vous oppose des faits par rapport à tout ce qu'on a rapporté ici sur facturation et tout ça. Donc, j'aimerais entrer en profondeur avec les documents de l'IGF, le confronter à l'audit des EY, voir si les pièces qu'ils avancent sont justement probantes ou pas.
Qu'est-ce
que vous pouvez dire aujourd'hui par rapport à ça?
Bukangalonzo est lancé en 2014, nous l'avons dit plusieurs fois ici. Et déjà en 2018, l'entreprise sud-africaine Africom dénonce ses contrats et intente une action en justice contre la RDC pour non-paiement de ses dépenses. Pourtant, certains observateurs accusent Africom de mégestion. Finalement, qui est coupable, l'État congolais ou l'entreprise sud-africaine?
Donc, moi, je pense que le plus grand coupable, c'est l'État congolais. Moi, je ne m'en cache pas. Ça veut dire que dès lors qu'un gouvernement lève l'option de construire un parc agro-industriel, c'est pas une ferme quelconque, un parc agro-industriel qui entre dans sa vision de développement, je pense que tous les membres du gouvernement doivent s'approprier de ce projet pour faire en sorte qu'ils puissent le pérenniser. Mais donc, je pense que c'était ça le problème. Mais alors, dès lors que, au niveau de l'État, cette vision n'a pas été partagée et que la personne qui avait impulsé ce projet quitte le gouvernement, on a laissé tomber le projet et c'est dommage. Pourquoi est-ce qu'on parle d'Africom? parce que c'est un projet qui a été bâti sur la forme de 3P, partenariat public-privé. Donc il y avait un tiers qui appartenait au gouvernement de Boutangalozo, un tiers qui appartenait à FICOM, et un autre tiers, on devait ouvrir le capital à d'autres bailleurs pour compléter justement le financement qui manquait, et comme ça développer Boutangalozo, qui avait vocation justement à nourrir l'Afrique aussi, avec le surplus de production. Et donc moi, c'est la mort dans l'âme quand je vois qu'un tel projet puisse mourir à cause d'un problème de management, alors que on avait tous les outils pour qu'il puisse être pérennisé.
Merci Fabius Ngabo, chercheur et consultant en fiscalité et finances. Comment vous réagissez aux révélations faites par l'inspection générale des finances au sujet de Boutangalozo?
Merci beaucoup monsieur le journaliste. D'abord je commence par vous remercier de l'invitation. Ensuite je salue les co-débatteurs avec qui nous sommes dans cette émission. D'entrée de jeu, je voudrais féliciter le courage de l'inspection générale des finances, de l'initiative de pouvoir publier ce rapport. Il faut noter que depuis plusieurs années, dans ce pays, il y a une crise sérieuse de contrôle dans la gestion des finances publiques. Néanmoins, il faut noter qu'il y a un certain nombre de choses, n'est-ce pas, qu'on pourrait reprocher à ce rapport. Il me semble qu'il y a eu trop d'affirmations, beaucoup de chiffres ont été avancés. Mais bien avant cela, il faut d'abord, parce que nous parlons du parc agroalimentaire de Boutangalozo, souligner l'importance sociale de ce projet lorsqu'il a été lancé en 2014, en juillet. En fait, l'objectif, c'était quoi? C'était de pouvoir permettre à la République d'atteindre l'autosuffisance alimentaire de la population. Parce que le constat est que la pauvreté généralisée de la population congolaise est le fait d'abord de l'absence de la production de l'essentiel des produits que nos populations consomment. Et il faut noter que le marché des produits alimentaires dans notre pays représente environ 2 milliards de dollars américains l'an. Et donc, pour moi, le projet Boutangalozo était une nécessité. Et ça devait servir au niveau ouest, mais également, pour moi, un tel projet était une nécessité aussi bien au nord, à l'est de la République. Parce que quand vous analysez sur le plan économique le pays, vous constatez qu'en fait, sur le plan économique, chaque province est collée au pays dont elle est limitrophe. Ça fait que pratiquement, il y a une sorte de balkanisation économique qui est de fait. Et donc, pour moi, plusieurs projets parsemés à travers la République de ce genre devaient constituer une solution pour permettre à la population d'atteindre cette autosuffisance alimentaire qui était un objectif de ce projet. Voilà, il s'est arrêté. On est en train de parler des raisons qui ont conduit à l'arrêt de ce projet. Il est plus facile, ça c'est important, il est plus facile de penser directement à une mauvaise planification, mais il est difficile de faire une telle affirmation si on n'a pas tous les éléments. Parce qu'un tel projet ne peut pas être mis en œuvre s'il n'y a pas d'études de faisabilité qui ont été menées. Et ces études de faisabilité, j'imagine qu'elles ont été menées parce que vous allez vous rappeler qu'il y a plusieurs fiduciaires et fiduciaires qui ont concouru à la réalisation de ce plan. Les études environnementales ont été effectuées, d'impact sur le plan social. Et évidemment, quand on va remettre les causes sur la planification, je ne sais pas, est-ce qu'on a le plan de financement de ce projet? Le projet, ce n'était pas un projet à court terme, c'était un projet à long terme. Eh bien, le plan de financement devait renseigner sur l'évolution des différents financements. Moi, je crois que plutôt, au lieu de parler d'un problème technique, un problème de planification, j'allais plutôt noter qu'il y a eu une absence de solidarité gouvernementale entre les deux gouvernements successifs. Ce qui fait que, à mon sens, le gouvernement qui a suivi le gouvernement Matata n'a pas compris l'importance sociale de ce projet dans la vie des Congolais. Moi, je crois que la réflexion ici doit être orientée sur comment relever cet investissement et comment éparpiller d'autres investissements de ce genre à travers la République pour répondre véritablement aux problèmes alimentaires. Vous suivez différents rapports, notamment le rapport qui avait été publié par le Programme alimentaire mondial, que l'alimentation au Congo est un véritable calvaire. Une chose que je n'ai pas appréciée, par exemple, dans ce rapport, qui, à mon sens, accuse beaucoup de faiblesses, il y a une sorte de triomphalisme dans l'annonce de ce rapport. Et c'est quand on établit un rapport, il y a des instances appropriées qui vont exploiter le rapport. Mais si déjà on doit commencer à énoncer des éléments descriptifs de certaines personnalités, il y a à croire à une sorte d'instrumentalisation derrière ce rapport. Et c'est très malheureux. C'est-à-dire
Fabrice Nabo,
oui,
un mot au sujet de la disparité des chiffres. Hein. L'IGF avance un chiffre de 285 millions de dollars américains, tandis que le gouvernement a toujours évoqué une somme de 80 millions de dollars.
Écoutez, moi je crois que la situation est très simple. Les fonds ont été décaissés à quel niveau? C'est la Banque centrale qui est la caisse du gouvernement. Et donc, il y a des instances plus appropriées pour donner des éléments beaucoup plus fiables. Et donc, moi, je suis plutôt tenté de penser que, en fait, le problème de l'arrêt de Bukangalonzo et le problème qui est aidé dans ce rapport, c'est plus un problème politique. Mais une chose qui est dangereuse, c'est que il y a une sorte de tendance de pouvoir politiser la démarche de contrôle. La démarche de contrôle reste une affaire purement administrative et il faut éviter de la politique.
Merci. Les auditeurs ont aussi donné leur point de vue par rapport à ces sujets sur Bukangalonzo. Et ingénieur Kabia Kanchama, vous allez réagir aux propos d'Israël Moutala et ceux de Fabrice Ngabo. Mais avant ça, il y a aussi une réflexion à laquelle vous allez réagir. Elle vient de Butembo au Nord Kivu.
C'est Josué Kakule Mouseke, j'interviens depuis Butembo. L'inspection générale des finances a fait son travail. Il revient à la justice de se saisir de ces rapports pour amener les auteurs du détournement à répondre de leurs actes. Sinon, à quoi pourraient servir les différents rapports sur les détournements si les détourneurs restent impunis et que personne ne rembourse les fonds? Bien au contraire, si les auteurs ne sont pas punis, c'est tout cela qui dénonce et qui s'attire la colère des bourreaux, chose qui risque de décourager la dénonciation.
Ingénieur Kabea Kanchama.
Je partage tout à fait cette approche-là. Quand je suis venu tout à l'heure Israël Moutala, ce projet normalement devrait résoudre le problème alimentaire que nous avons au pays, non pas seulement au Congo, mais en Afrique. Donc, le but d'un audit, c'est d'abord d'établir la gestion d'un projet. S'il y a faille dans la gestion du projet, je crois qu'une fois que l'inspection, l'IGF, ait fait son travail, il appartient aux inspecteurs judiciaires d'approfondir le travail qui a été fait par l'IGF. Peut-être le souci d'Israël Moutala peut être fondé du fait qu'on peut avancer certains chiffres. Si ces chiffres n'ont pas été analysés en profondeur, on risque d'activer les gens comme ça. Donc, il faut une analyse objective de cet audit, faire en sorte que les inspecteurs judiciaires fassent leur travail et que le parquet se saisisse du dossier pour mettre définitivement fin au détournement et à la mégestion de façon à ce que le pays puisse reprendre le chemin du développement.
Vous avez suivi l'analyse d'Israël Moutala qui a semblé, n'est-ce pas, confirmer, en fait, qui a confirmé les propos de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo qui avait justifié les fiascos qu'avait connu Bukangalonzo par la rupture des fonds. Est-ce que vous êtes de cet avis-là?
Si j'avais la possibilité de poser la question à l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, parce que si on dit que c'était un projet qui ne relevait pas du ministère sectoriel, comment on pouvait agir, comment est-ce que l'État, parce que l'État devait agir à travers le ministère sectoriel ou relever ce projet-là, comment l'État pouvait assurer le suivi de réalisation de ce projet si le ministère sectoriel n'a pas été associé à la mise en œuvre de ce projet? Donc, et on dit quelque chose de son contraire, parce que normalement, quand on parle de la politique agricole commune, c'est-à-dire qu'on associe, que ce soit au niveau des pays qui peuvent faire partie des marchés économiques ou du pays, on associe tous les acteurs au projet qui sont concernés par ce projet-là et mettre en place un comité de pilotage pour le suivi régulier des réalisations techniques et de dépenses financières. Donc, si le Premier ministre Matata dit ça, et que le ministère de l'Agriculture, dès le départ, n'était pas associé à ce projet, je ne sais pas à quoi on pouvait s'attendre pour le suivi.
Et vous avez suivi aussi Fabrice Ngabo, parce que vous avez parlé d'un problème des planifications, mais lui dit qu'il y a eu des études des préalables qui ont été réalisées.
Il y a eu des études, bon, les études, oui, les études, si les études préalables ont été réalisées, c'est-à-dire que le problème se pose au niveau du management de pendant la période, parce que le projet, dans la gestion de projet, il y a plusieurs phases. Il y a la phase d'études, la phase réalisation et de livraison. Donc, si les études ont été correctement faites et que dans la phase de réalisation, il n'y avait pas le vue d'un comité de pilotage et du suivi projet, c'est normal qu'on ne puisse pas atteindre les objectifs qui ont été définis dès le départ pendant l'étude du projet.
Merci. Israël Moutala, vous allez aussi réagir à cette réflexion qui vient du Kassai Central.
Bernard Malumba, depuis Kananga au Kassai Central, le projet de Bukangalonzo avait une très grande mission, aider les compatriotes avec les aliments adéquats. Mais malheureusement, que les gens qui coordonnaient se sont convenus pour détourner l'argent dans le but de faire souffrir la population qui copie dans la misère. Comment parlons-nous du développement pendant que nous détruisons nous-mêmes? Le Congolais vraiment est l'ennemi numéro un de lui-même. Vraiment, pour éradiquer ces actes ignobles, le gouvernement doit former une équipe qui pourra travailler avec l'IGE pour que les enquêtes soient transparentes et impartiales. Car l'instruction de la générale des finances joue aussi à le dossier qui reste jusque-là sans réponse. Nous ne voulons pas vraiment que ces actes ici soient répétitifs.
Israël Moutala.
Merci, merci Guy de la parole. Je comprends bien, mais comme je dis encore, c'est avec des pincettes que je prends le rapport de Niger parce que j'ai pas tous les éléments. Mais ce que je sais par rapport à ça, comme je vous l'ai dit tantôt, un projet qui est nouveau, qui est fragile à ses débuts, doit être appuyé de manière ferme et non équivoque par le gouvernement qui les met en œuvre. Donc, il y a des faiblesses dans le management, il y a eu des faiblesses dans le management de l'équipe gouvernementale. Parce que c'est un projet, comme je le dis, le ministère de l'Agriculture était associé, le ministère de l'Industrie était associé, souvenez-vous du marché international de Kinshasa, qui a englouti aussi beaucoup de fonds et tout ça, le ministère de Finances était associé parce que les décaissements se faisaient via le ministère de Finances, et ensuite, le ministère du portefeuille, parce que de Bukangalonzo aidait une société dans laquelle l'État avait le 30% des parts, les autres 30% des parts étaient entre le consortium que conduisait Africom, et pour financer l'investissement qui manquait, il était prévu qu'on ouvre cet actionnariat à des prêts ou à de nouveaux actionnaires. Donc, c'était un management assez complexe. Voilà pourquoi. Moi, je souligne encore que ce projet n'était pas parfait. Mais on ne peut pas dire que les études de faisabilité et de préfaisabilité n'avaient pas été faites. On ne se réveille pas un matin et dire que voilà, on va prendre autant de millions, autant d'hectares pour ériger un parc agro-industriel. Il y a des plans, il y a tout ça. Donc, moi, j'aimerais qu'on puisse tirer les responsabilités administratives et même des cas de corruption, s'il y a des cas de corruption avérés, que la justice fasse son travail.
S'il est établi effectivement que 205 millions de dollars ont été détournés comme l'allègue, n'est-ce pas, l'IGF, à votre avis, qu'est-ce que l'État congolais devrait faire pour récupérer cet argent détourné?
Bon, d'abord, je ne crois pas que l'État ait dépensé une telle somme, parce qu'il faut, il y a les sommes, il y a une partie des sommes qui ont été dépensées par le gouvernement. Le premier financement, je crois, il était de 80 millions de dollars. Après, je crois que Africom avait avancé un montant de 50 millions de dollars. C'est qu'on avait déjà, on était déjà à 500, à 120, à 130 millions de dollars. Africom, il faut pas oublier aussi, il y avait un apport en industrie, le savoir-faire, je sais pas comment est-ce qu'on a évalué tout ça. Est-ce qu'on a tenu compte aussi du marché international et du port qui devait être construit? Est-ce qu'on a tenu compte, quand on avance le montant là-bas, de l'usine de production d'engrais qui est à Boma, Triomphe? Est-ce qu'on a tenu compte de tout ça? Voilà, il fallait vraiment que j'aille le rapport de l'IGF pour voir exactement à quoi correspondent ces 220 millions de dollars.
Merci.
Parce que l'État, voilà, c'était un cofinancement et puis il y avait d'autres apports en industrie et tout ça. Donc voilà pourquoi j'aimerais d'abord parcourir ce rapport, comme je ne l'ai pas. C'est difficile, voilà pourquoi je vous dis, c'est avec beaucoup de pincettes.
Fabrice Nabo, vous allez aussi réagir à cette réflexion qui vient de Mbandaka.
C'est Gilles Lopolondo. Je vous appelle depuis la ville de Mbandaka. Les révélations de l'inspecteur général des finances étaient un événement car depuis son accession à ses postes, plusieurs révélations d'assistance ont été révélées, mais les dossiers se sont classés sans suite. Concernant la récupération de plusieurs millions de dollars, l'État congolais restera toujours grand perdant dans la mesure où les gens qui volent sont les mêmes qui occupent les postes clés dans le gouvernement. Et qui va arrêter qui? À mon avis, la somme révélée par l'inspecteur général des finances, c'est une grande somme qui nécessite un procès pénal comme celui des 100 jours du chef de l'État et que les auteurs doivent subir la rigueur de la loi pour décourager les autres.
Fabrice Ngabo, cette réflexion nous pousse, n'est-ce pas, à vous poser notre deuxième question. Qu'est-ce que l'État congolais devrait faire pour récupérer l'argent détourné s'il s'avère que effectivement cette somme avancée par l'IGF, les 250 millions de dollars, ont été détournés?
D'accord, merci. En fait, d'abord, je suis d'accord avec l'auditeur. Les responsabilités doivent être établies pour que voilà, ceux qui sont véritablement auteurs de ce crime financier, soit répondent effectivement de leurs actes. Cependant, je crois que l'annonce des chiffres, il faut le faire avec beaucoup de prudence, n'est-ce pas? Il faut éviter dans une matière comme celle-ci des annonces qui ont une couleur qui sont un peu populiste, parce qu'en fait, il s'agit pas de 100 dollars, de 200 dollars qu'on est en train d'annoncer. Que le gouvernement a perdu, mais il s'agit de sommes importantes et donc il faut y aller avec beaucoup, beaucoup de prudence. Moi, je crois que ici, le destinataire principal de ce rapport, c'est le président de la justice. Parce que, à ce que je sache, l'IGF n'est pas une instance juridictionnelle. Bien que la justice, il devait se saisir de ce rapport pour mener des investigations beaucoup plus profondes de manière à établir la responsabilité et la culpabilité dans les chefs des personnes qui sont implicitement cité. Sinon, ce sera une façon de porter atteinte à l'honneur, à la dignité de ces personnalités, et sans avoir suivi la procédure. Parce qu'on devait se lancer dans ce sens-là.
Merci.
Deuxième élément, c'est que ce projet a atteint la phase d'exploitation. Donc, déjà, la population de Kinshasa ici a consommé les produits venant du parc agroalimentaire de Kamalongo. Et il faut dire que il doit y avoir aussi d'autres entreprises, notamment celles qui sont dans l'importation, qui n'ont pas apprécié l'arrivée d'un tel investissement. Parce que sur le marché, quel a été le constat? C'est que les produits venant du parc agroalimentaire de Bukangalonzo a fait baisser tous les produits concurrents sur le marché. N'est-ce pas? Et donc, c'était une belle initiative pour la population, mais si ça n'a pas tenu dans la durée, c'est parce qu'effectivement, je crois qu'il y a eu absence de cette solidarité gouvernementale. Il y a ce projet qui semble visiblement n'a pas été partagé. La vision de ce projet n'a pas été partagée par tout le monde.
Merci.
Vous avez vu, brutalement, ceux qui sont venus, ils ont semblé ne pas être intéressés par ce projet. Je crois que, en synthèse, le problème de ce projet, c'était plus un problème de financement plutôt que de parler d'un problème de conception, parce que je crois que tout le décor était planté pour que ce projet puisse atteindre la phase de maturité et que ça soit inscrit réellement dans une approche durable. Que les générations d'aujourd'hui et les générations futures bénéficient de cet avantage. Ici, il est une occasion pour le gouvernement d'aller dans le sens de pouvoir relancer cet investissement parce que sur le plan social, il faut le rappeler, la situation est dramatique.
Et à votre avis, Fabrice Ngabo, parce que vous revenez sur cette préoccupation, comment relancer, n'est-ce pas, cet investissement, qu'est-ce que vous proposerez pour que l'on puisse relancer ces projets?
Il faut d'abord.
Ça sera votre conclusion parce que nous sommes à la fin de l'émission.
D'accord. Il faut d'abord une évaluation sérieuse de ce qui a été fait, où est-ce qu'on en est, et on se questionne réellement sur les véritables motifs qui ont conduit à l'arrêt de ce projet. Il faut éviter de spéculer à ce niveau. Et tous les services habilités qui sont placés pour donner des chiffres. Les
fonds ont été détectés où? À la Banque centrale. Il y a un relevé, il y a des documents financiers qui renseignent sur les véritables chiffres qui ont été détectés. Et là, on peut maintenant projeter les bases dans l'avenir à travers une planification beaucoup plus sérieuse qui renseigne sur les véritables objectifs,
merci,
sur les véritables moyens à mettre en jeu, la procédure, ou si vous voulez bien le chronogramme de financement, pour que finalement ce projet, aussi bien ici à Kinshasa, je le répète bien,
merci Fabrice,
dans la partie ouest et la partie est de la République, où la situation sociale elle est pareille dans tout le pays.
Merci ingénieur Kabeya Kachama, c'est votre conclusion. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer, n'est-ce pas, par rapport à Bukangalonzo?
Écoutez, la leçon qu'on peut tirer, c'est il va falloir que les dirigeants puissent se réviser de façon à mettre en place les projets cohérents, tant au niveau de la gestion qu'au niveau de caissement financier. Je pense, comme j'aborde dans le même sens avec Alizé Moukala et l'autre co-débatteur. Je ne sais pas quelle est l'organisation. Est-ce qu'il appartenait à l'IGF de faire cette publication ou il fallait faire intervenir la police judiciaire qui allait approfondir l'audit de l'IGF et en faire un dossier au niveau du parquet? Donc, il appartient à ce qu'on puisse gérer le pays autrement, merci, à partir de cette expérience-là. Bukangalonzo n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Donc, on doit ouvrir les audits dans les différentes entreprises,
merci,
qui sont devenues les canards boiteux aujourd'hui.
Merci Israël Moutala. Votre conclusion, comment vous entrevoyez l'avenir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour, n'est-ce pas, éviter au pays ce qui vient d'arriver par rapport à ces dossiers Bukangalonzo?
Ça veut dire qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Moi, je pense d'abord que nous devons avoir partager une vision commune de progrès de développement. Moi, je suis convaincu qu'il ne faut pas laisser mourir Bukangalonzo. C'est un joyau national, c'est un outil de notre souveraineté alimentaire. Et donc, Bukangalonzo n'est pas perdu, pour moi, parce que c'est un projet pertinent, c'est un projet indispensable à notre développement. Pour moi, on tire les leçons de management qui ont échoué, on recorrige le management et on réinjecte des frais là-bas parce que les immobilisations sont là, les silos sont là, les pivots d'irrigation sont là, l'énergie 56 mégawatts sont là, les terres sont là, donc toute l'infrastructure est là, il suffit justement de relancer et je pense qu'il faudrait que les plus hautes autorités du pays, notamment le président de la République, puissent s'approprier de ce projet et le relancer.
Merci.
Parce qu'il a un potentiel de 22 000 emplois.
Merci.
Comme au plus fort de la Gécamine.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Bob Landou et Willem Lungamba qui étaient à la technique. Merci à Donald Madimba et Kéline Couté qui ont réalisé cette émission sous la supervision d'Axel Gonto. À la présentation Guy Maté. Merci et bon soutien au programme sur Radio Capi.